Bien alors bonsoir à tout le monde, bienvenue pour ces rencontres au coin du livre. Donc, nous sommes heureux d'accueillir ce soir pour inaugurer cette série de rencontres au coin du livre tout au long de l'année 2009, Charles Nicolas, qui commence ces rencontres que nous avons voulu conviviales, je dirais presque familiales, pour redonner à la librairie sa vocation première, qui est non pas une vocation commerciale avant tout, mais une vocation qui a pour but de transmettre des convictions, des idées. Les libraires à l'origine étaient aussi des imprimeurs, et donc en tant que libraires et imprimeurs, eh bien ils avaient, je dirais, double moyen pour diffuser justement les idées auxquelles ils adhéraient, diffuser les idées de leurs amis, de leurs groupes auxquels ils s'associaient. Et donc c'est ainsi que le travail de libraire a commencé, et c'est aussi dans ce sens-là que nous voulons redonner donc à la librairie son sens premier, diffuser un savoir, communiquer des convictions, et aussi dans notre cas, en tant que librairie chrétienne, diffuser et communiquer notre foi. Et c'est pourquoi nous avons voulu ouvrir ces rencontres aussi à des personnalités du monde protestant, local, régional, et donc pour que ce puisse être un lieu de dialogue, de rencontre, de partage. Alors il ne s'agit pas donc ce soir d'une conférence, mais plutôt de partager sur un vécu, une expérience, à partir, je dirais, du travail, du quotidien, de ces différentes personnalités qui vont se suivre tout au long de l'année. Donc ce soir, Charles Nicolas, qui viendra nous parler de son travail, qui vient nous parler de son travail d'aumônier des hôpitaux. Il y aura aussi un médecin qui viendra nous parler sur le thème de l'homéopathie, des historiens qui viendront nous parler donc de Alès et des chefs camisards, des prédicants ici dans les Cévennes. Un éditeur aussi qui viendra présenter le monde de l'édition protestante et de l'édition générale. Donc différents thèmes qui seront abordés tout au long de cette année. Alors ce soir, le sujet concerne donc les soins palliatifs. Suivi psychologique ou spirituel, les enjeux, les rapports entre les deux. Ce sujet peut paraître peut-être loin de nos préoccupations, et pourtant c'est un sujet évidemment fondamental. J'étais très surpris en me penchant sur le sujet et en disant justement que en fait 70% des Français meurent à l'hôpital. J'ai découvert ça. Ça m'a impressionné parce que je pensais encore qu'on mourait dans sa maison, qu'on mourait au village, comme ce fut le cas il y a plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, non, 70% des Français meurent à l'hôpital. Et évidemment, cette réalité pose la question du suivi médical et de l'accompagnement de ces hommes et de ces femmes qui sont donc dans ce milieu hospitalier. Alors, il ne s'agit pas ici non plus de rentrer en conflit avec le suivi médical, d'une opposition entre médical et spirituel. Du reste, on se rend compte, lorsqu'on lit certains livres, qu'à l'intérieur des disciplines médicales, tout le monde n'a pas le même avis. Il y a des différences d'appréciation, par exemple, entre le service des soins palliatifs et le service des soins de réanimation, qui aussi sont confrontés à la question de la mort, mais cette fois plus dans l'urgence, alors qu'il me semble, de ce que j'ai compris, je ne suis pas un spécialiste, mais le soin palliatif cherche plutôt à accompagner dans un cadre communautaire, manière plus douce, plus lente aussi, hein, la personne qui se dirige tout doucement vers la mort et donc la préparer à cette échéance. Alors se pose la question évidemment dans tout ce travail de la place de l'aumônier des hôpitaux. Charles Nicolas donc a été pasteur pendant de nombreuses années, pasteur non loin d'ici, à Lunel, à Vauvert. Et puis maintenant est aumônier des hôpitaux. Et donc il est confronté à cette réalité du suivi de ces hommes et de ces femmes qui se retrouvent petit à petit au seuil de la mort, confrontés donc à une certaine solitude peut-être, à des angoisses, et se pose alors la question de savoir comment les accompagner. Suivi spirituel ou suivi psychologique, quelle est la place de l'aumônier, quelle est sa prise de position, comment peut-il exprimer sa position sans rentrer en contradiction, en opposition avec le travail des médecins. Voilà, toutes sortes de questions qui sont peut-être les vôtres aussi, que vous pourrez poser à cher Nicolas. Donc ça se veut quelque chose d'assez libre, assez familial. On est nombreux, donc le côté familial, bon, on va essayer de le recréer tant bien que mal. Mais j'espère que vous serez libre. On va laisser la parole à Charles pendant à peu près 20 minutes. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un temps de, je dirais, de partage, de discussion. Pas de débat, parce que le débat peut devenir très vite contradictoire, comme on dit, et conflictuel. Alors je préfère le terme de discussion pour que ça soit plus convivial et plus familial. Voilà. Donc t'écoutons, Charles.
Voilà, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette série. Avec un peu d'appréhension parce que c'est la première fois que cette rencontre existe et puis en même temps beaucoup de joie évidemment parce qu'on est là pour se rencontrer et pour partager. Donc ceux qui sont venus en pensant à une conférence seront peut-être déçus, encore que la conférence n'est pas la seule manière de communiquer, hein. Donc j'avais bien compris ce que Franck m'avait demandé de préparer, une présentation pas très longue sur une situation vécue avec des questionnements qui surgissent autant que des affirmations définitives. Et finalement, je vais peut-être aussi apprendre des choses ce soir en écoutant l'un ou l'autre d'entre vous. En tout cas, on va mettre ensemble des situations qui ne sont pas forcément très simples, mais qui sont des questions qui se posent aujourd'hui. Et si elles se posent dans des milieux qui semblent un peu fermés, comme les milieux hospitaliers, les centres de réanimation ou de soins palliatifs, ces questions, en fait, nous concernent tous, hein. Aujourd'hui, une de nos visiteuses est décédée après 5 ans de maladie. Ben voilà, une visiteuse d'aumônerie qui visite des patients, un jour elle meurt aussi. Et donc la mort est un sujet qui ne laisse personne indifférent trop longtemps, disons. On peut être indifférent, mais on n'est pas indifférent, on n'est pas indemne face à un sujet comme celui-là. Alors, la situation que je peux vous présenter, Franck en a dit quelques mots, c'est la situation d'un pasteur dans le milieu hospitalier, et plus précisément dans un dialogue qui s'est établi cet automne avec l'équipe mobile des soins palliatifs du centre hospitalier d'Alès. Donc, il se trouve que nous sommes dans le même couloir, en plus nos bureaux sont dans le même couloir, donc on se côtoie en permanence, et les soins palliatifs. Alors, quelques mots sur la vocation de l'équipe des soins palliatifs. Le concept de soins palliatifs est né il y a peut-être 40 ans, c'est beaucoup développé, et a marqué le milieu hospitalier, hein, en restituant, je dirais, deux principes très importants. La personne est une globalité. On ne peut pas la séparer en morceaux, le corps d'un côté, l'affectif de l'autre, la psychologie de l'autre. La personne est une globalité, voilà, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous rend sensibles. Et puis l'autre mobile qui mobilise précisément les soins palliatifs, c'est cette idée que entre l'acharnement et l'abandon, ce sont deux tentations du monde médical, ça on peut le constater tous les jours. Donc l'acharnement, ça veut dire encore faire des choses quand il faudrait s'arrêter. Et l'abandon, ça veut dire on ne peut plus rien faire, donc on ne peut plus rien faire, au revoir. Voilà. Entre l'acharnement et l'abandon, être encore en accompagnement et en soin. Bah, c'est quand même très beau. Hein, voilà. Faire encore quelque chose quand il n'y a plus rien à faire. Et l'équipe mobile de soins palliatifs décline sa mission en quatre aspects. Prendre en compte les besoins physiques, voilà, principalement le traitement de la douleur, les besoins psychologiques, les besoins sociaux, relationnels, et les besoins spirituels. Spirituel, évidemment, ça nous intéresse. Pas que les besoins spirituels, parce que nous croyons aussi à la globalité de la personne. Mais quand on entend les besoins spirituels mentionnés dans l'hôpital par des équipes de professionnels, ça nous pose question. En tout cas, on a envie de savoir ce qu'ils veulent dire par là. Et alors, cet automne, à la fin de l'été, peut-être même au début de l'été, mais on a dit qu'on se reverrait pour ça à la fin de l'été, Il y a eu un désir entre eux et nous, donc l'aumônier catholique et moi-même d'une part, et l'équipe mobile des soins palliatifs, il y a eu ce désir d'expliciter ce qu'on entendait derrière, que ce qu'on mettait derrière cette expression-là, voilà, les besoins spirituels, avec cette idée qu'on ne mettait pas forcément la même chose derrière. Et alors, on a eu 3 rencontres, la dernière c'était mardi dernier, et je me suis dit, au bout de 3 rencontres, ils en auront assez. Non, on a programmé une rencontre pour dans un mois, avec comme thème, pourquoi a-t-on peur de la mort ? C'est quand même une question magnifique, n'est-ce pas ? Voilà. Équipe des soins palliatifs, pour mémoire, composée de 2 médecins, 2 psychologues, une assistante sociale, 2 infirmières et une secrétaire. Donc c'est quand même une équipe assez conséquente qui visite donc les patients à la demande des médecins ou des familles au centre hospitalier, à la clinique Bonnefond ou à domicile. Voilà, donc c'est important de savoir. Il y a d'autres équipes de soins palliatifs sur Alès, mais celle de l'hôpital est la principale. Alors on a eu ces rencontres-là. Je vous lis dans un document qu'ils nous ont donné cette semaine, c'était à eux cette semaine de dire ce qu'ils entendaient par besoin spirituel. C'est moi qui avais commencé, les catholiques avaient animé le deuxième temps de rencontre. Dans le document que les soins palliatifs nous ont donné cette semaine, voilà ce qu'ils disent. Les soins palliatifs sont des soins actifs, doux sans doute, mais actifs tout de même, délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie évolutive ou terminale. Voilà. Et encore un écho sur un élément qui caractérise vraiment leur positionnement. Ils parlent, notamment à l'approche de la fin de vie, d'un concept de douleur totale, total pain en anglais, hein, parce que c'est en Angleterre que c'est né. La douleur totale, c'est la rencontre d'une douleur physique, morale, sociale et spirituelle. Voilà. Donc quand ces 4 douleurs convergent, évidemment, on en arrive à quelque chose qui peut atteindre une sorte de paroxysme, ou des angoisses, ou des situations de détresse extrêmement grandes. Voilà, je lis encore 4 lignes sur cette même page. Accompagner la souffrance du malade. Différentes causes sont à l'origine de cette souffrance. Les fractures psycho-affectives. Donc les besoins de réconciliation entre conjoints, avec les enfants, les sentiments d'abandon, voilà. Les fractures psycho-affectives, les fractures cognitives ou mentales, donc la difficulté de maintenir une pensée structurée, ou de se souvenir, ou de s'exprimer. Les fractures sociales, voilà, le sentiment d'inutilité par rapport à la place qu'on a tenue en tant qu'adulte en bonne santé, hein, dans la famille, dans la société, dans le milieu professionnel, et les fractures spirituelles. Donc ça, c'est leur langage, hein, les fractures spirituelles. Et moi, ma grande curiosité était de leur dire, mais qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là ? Qu'est-ce que vous mettez, vous, qui vous dites, non pas athée, mais sans Dieu, en tout cas sur le plan professionnel, évidemment. Qu'est-ce que vous mettez derrière ? J'étais curieux, très curieux de cela, et eux étaient curieux de m'entendre aussi. J'ai trouvé, je ne sais plus où, un petit dépliant, non, ce n'est pas un dépliant, un petit signet plutôt, hein. C'est une librairie, je pense, à Montpellier, je ne sais même plus exactement. Alors voilà, un rond avec les couleurs de l'arc-en-ciel, une colombe, librairie, souffle d'esprit, spiritualité, mieux-être. Ça, c'est pas les soins palliatifs, hein. C'est comment la spiritualité est perçue aujourd'hui. Alors, spiritualité, santé, psychologie, thérapie douce et naturelle, développement personnel, pierres et cristaux, encens, art sacré, bougies, neuvaines, bol chantant, musique, carterie, ateliers et conférences. Donc voilà un petit peu la mouvance actuelle qui s'exprime sur le champ des besoins spirituels. Et évidemment, les soins palliatifs, comment dirais-je, dans leur attitude non directive, de respect total, vont facilement s'intégrer dans cette vision un peu pluridimensionnelle de la spiritualité, depuis le trèfle à 4 feuilles jusqu'au bouddhisme, en passant par les ovnis et puis je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez là-dedans. Et en dernier lieu, ils mettront les religions, avec leurs rites et leurs pratiques. Alors, voilà, comment on se situe, nous, là-dedans, hein? Donc, c'est un questionnement terrible, et c'est difficile de se situer, parce que si on se démarque de leur définition des besoins spirituels, ils nous renvoient sur le religieux, mais dans le religieux, nous-mêmes, on n'est pas tellement à l'aise non plus, n'est-ce pas? Moi, je leur explique que ce sont des religieux qui ont mis Jésus sur la croix, et que les rites, ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Et donc, ils ont de la peine à nous comprendre, en tout cas à me comprendre, et moi j'ai de la peine à les comprendre. On travaille ensemble dans les mêmes couloirs, quelquefois les mêmes chambres, et donc le défi c'était de, non pas de se convaincre nécessairement les uns les autres, mais d'expliquer ce qu'on met derrière nos mots pour bien se comprendre. Voilà. Et ça ils l'ont accepté, même s'ils ont été, je dois dire, un peu estomaqués j'ai l'audace de dire, voilà, je ne me reconnais pas dans votre définition des soins palliatifs, des besoins spirituels, parce que ma compréhension est différente. Et là, c'est la question de la laïcité que j'évoque. En laïcité, il n'y a pas une définition des besoins spirituels qui va s'imposer à l'exclusion des autres. Voilà, ni la mienne, ni la vôtre. Donc la vôtre, est à son intérêt. La mienne probablement aussi. Moi, je vous laisse être dans votre champ, mais mon champ d'action est légitime aussi. La laïcité n'exclut pas la notion de Dieu. Ils ont été surpris, pourquoi ? Parce que non seulement leur compréhension des besoins spirituels rejoint la compréhension contemporaine, très floue et très vague, qui, à mon avis, est difficile à distinguer des besoins affectifs, psychologiques, relationnels, sociaux. Hein, j'ai toujours pas bien compris ce qu'ils mettent derrière les besoins spirituels. Je perds le fil de ma pensée. C'était difficile donc ils étaient surpris donc de la manière avec laquelle je me suis exprimé, parce que je me suis distingué en tant que pasteur. Voilà, excusez-moi, la fatigue me fait perdre le fil de ma pensée, parce que je me suis dissocié aussi, non seulement voilà, de la compréhension globale actuelle des besoins spirituels, mais aussi du discours de certains religieux, voilà, qui aujourd'hui adoptent la définition un peu englobante des soins palliatifs, sous prétexte que comme cela, ils vont être mieux intégrés dans le tissu de l'hôpital. Voilà. Est-ce que vous avez suivi cette dernière phrase ? La tentation aujourd'hui pour les milieux religieux, prêtres et pasteurs compris, c'est d'adopter la définition des besoins spirituels des soins palliatifs, parce que c'est une définition commode, dans laquelle chacun peut mettre ce qu'il veut, qui est donc accueillante, respectueuse, et dans laquelle nous pouvons ajouter la dimension de notre tradition religieuse, protestante et pourquoi pas évangélique. Ça ne gêne personne, pourvu qu'on dise que c'est notre tradition et chacun a la sienne, voyez. Et si on a l'audace de dire, oui, mais moi, ma compréhension des besoins spirituels est quand même toute différente de cela, alors on met en jeu une autre règle et on sort de l'habitude, on sort du consensus, voilà. Et donc, ils ont été surpris, mais je crois pouvoir le dire, en un sens reconnaissant de la franchise, hein. Et finalement de l'aptitude au débat, comme le disait Franck tout à l'heure, on peut avoir des convictions différentes et quand même être en mesure de dialoguer et de se respecter. Je ne leur fais pas des crocs en jambes quand je les croise dans le couloir, je ne vais pas dénigrer le travail qu'ils font, c'est un travail très précieux à bien des égards, mais je n'attends pas d'eux qu'ils me dictent ce que je dois comprendre, moi, par besoin spirituel. Et j'ai eu l'audace de dire, pour moi, il n'y a pas de spiritualité sans Dieu. Alors ça, c'est une des questions que je vous renvoie, en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que j'ai été trop loin ? Parce qu'eux, ils vont dire, mais alors, un bouddhiste n'est pas spirituel, alors. Comment on peut dire ça? Un bouddhiste qui ne croit pas en Dieu, alors il n'est pas spirituel. Les moines bouddhistes ne sont pas spirituels. Vous voyez, on va vous renvoyer ça. Ou un indien qui regarde le soleil couchant en faisant une prière, il n'est pas spirituel. Voilà. Ou quelqu'un qui écoute la grande musique. Alors déjà, vous voyez, on voudrait tellement tout englober, n'est-ce pas? Voilà. C'est tellement confortable. C'est tellement libérateur. Voilà. C'est tellement libérateur. Comment oser revenir avec des affirmations plus précises et qui semblent exclure les autres? Alors, il y a des auteurs bien connus, je pense à Alain Ouzio, par exemple. Alain Ouzio, qui était prédicateur au rassemblement du Musée du Désert il y a un an. Alain Ouzio est un des promoteurs dans le milieu pastoral de la spiritualité sans Dieu. Voilà, quelqu'un qui fait des conférences tous les 15 jours à Paris et qui est quand même quelqu'un de renom. Voilà. Donc, il faut le savoir, j'ai une page d'article là pour ceux que ça intéresse. Intéressant de mentionner deux auteurs quand même assez en vogue aujourd'hui, non chrétiens, mais qui sont cités dans les journaux et les revues chrétiennes quelquefois. Deux auteurs, je pense à Michel Onfray. Michel Onfray. Alors s'il y avait un tableau, j'aurais écrit son nom, mais qui a écrit par exemple un traité d'athéologie, voilà, où il fait de la quête du plaisir une facette de la recherche du sens de l'existence. Michel Onfray était quand même interviewé sur France Inter le 1er janvier pour donner ses vœux et sa vision du monde. Vous voyez, donc c'est quand même des gens qui aujourd'hui ont une audience importante, hein, sont des penseurs de référence. Je crois que Michel Onfray donne une émission sur France Culture tous les soirs de 19h à 20h. J'ai entendu ça, hein. Donc voilà, des gens. Michel Onfray. Et puis quelqu'un qui a une approche plus douce, plus respectueuse, on pourrait dire, mais quand même dans le même sens, c'est Alain Comte Sponville. Alain Comte Sponville, voilà, qui défend lui aussi cette idée d'une spiritualité sans Dieu. Et lui, alors, il est fréquemment cité par des journaux ou par des auteurs chrétiens comme étant introduction à une spiritualité sans Dieu. Voilà, l'esprit de l'athéisme. Voilà les livres qu'il... Et alors, ça passe pour être aujourd'hui, on pourrait dire, un petit peu la référence en matière de pensée. Voilà. Je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti. Juste encore un mot, peut-être, pour vous dire que, en ce moment, à l'hôpital, un comité d'éthique est en train de se constituer. Voilà. Pas seulement à Alès, un peu partout, à Béziers depuis 4 ans, bientôt à Avignon, des comités d'éthique émergent un petit peu partout. Ça correspond, c'est révélateur d'une prise de conscience. Cette prise de conscience, je l'ai entendu exprimer comme cela par un des directeurs de l'hôpital. Voilà, nous soignons des hommes, nous mettons beaucoup de moyens quand même et de savoir-faire pour soigner des hommes et des femmes en souffrance. On est confronté à des questions auxquelles nous aurons du mal à répondre si on ne s'accorde pas sur une définition de qu'est-ce qu'un homme. Ce n'est pas un philosophe qui a dit ça, hein, c'est le directeur de l'hôpital. Avec la préoccupation du questionnement auquel sont confrontés les médecins dans certaines situations très concrètes, presque tous les jours. Voilà. Notamment, pour parler très schématiquement, entre l'acharnement et l'abandon. Tout à l'heure, j'ai un petit peu caricaturé, hein, l'acharnement, ça veut dire on va presque s'amuser à essayer encore de mettre un tube, une perforation, etc. Cet après-midi, un pneumologue m'a dit, au sujet de la visiteuse qui est décédée ce matin, si j'avais su qu'elle mourrait maintenant, j'aurais pas fait l'examen, ou plutôt l'intervention que j'ai faite il y a 3 jours. Mais plusieurs lui ont dit, elle va vivre que quelques jours. Lui a dit non. Mais il dit non parce qu'il refuse de voir ses patients mourir. Parce que voir ses patients mourir est pour lui un échec. Enfin, vous voyez, c'est quand même beaucoup de choses. Là, je voudrais citer un autre auteur, qui s'appelle, j'ai son nom souvent à la pensée, Jean-Claude Guillebeau. Jean-Claude Guillebeau. Moi, j'ai envie de vous inviter à retenir ce nom-là. Jean-Claude Guillebeau est un écrivain contemporain. Il sort un livre par an, au moins. Un de ses derniers livres, c'est « Pourquoi je suis redevenu chrétien », quand même. Hein, il a écrit un livre qui s'appelle « La force de conviction ». Il a écrit un livre qui s'appelle « La tyrannie du plaisir ». Rien que les titres de ses livres sont très, très intéressants. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le principe d'humanité », dans lequel il démontre que l'humanité peut se perdre, hein, et que l'homme peut se regarder lui-même comme une marchandise, hein, ou comme un animal. Voilà. Et ce n'est pas la même chose qu'on se considère comme un animal, comme une marchandise, ou comme un être créé à l'image de Dieu. Voyez. Donc la question du psaume 8, qu'est-ce que l'homme est posée, avec un certain courage, quoi. On soigne des hommes, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Parce que selon la réponse, on va orienter nos décisions très concrètement, hein, pour votre maman ou votre papa peut-être, qui sera à l'hôpital bientôt, ou pour vous-même. On va orienter les choix autrement. Et un des buts de ce comité d'éthique, c'est d'offrir la possibilité aux médecins qui ne savent pas quoi faire, d'avoir une délégation de ce comité d'éthique qui vient entendre leurs questionnements et éventuellement, pas donner des réponses, mais donner leurs sentiments. Voilà. Donner aux médecins la possibilité d'avoir quelqu'un pour dialoguer. C'est lui qui prendra la décision, mais tout seul c'est trop difficile. C'est poignant quand même, hein, voilà. Voilà, donc ce comité d'éthique est en train de se constituer dans quelques jours. Au passage, il y a un aumônier musulman qui vient d'être nommé à l'hôpital il y a une semaine. C'est un événement, hein, si je vous l'apprends, c'est un événement dans l'histoire de notre pays et de notre ville. Et donc il va sans doute faire partie de ce comité d'éthique. Voilà, c'est une des palettes, pourquoi pas. Et ce comité d'éthique va essayer de réfléchir à ces questions, et au moins un des aumôniers y sera, je pense, avec comme objectif ni d'imposer, ni de se taire. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là.
Très bien, merci beaucoup. Voilà, est-ce que certaines personnes veulent intervenir, des questions, des remarques, des expériences? Et que Charles aussi puisse répondre éventuellement aux sollicitations, et qu'un échange puisse naître.
On peut se répondre les uns les autres, hein, parce que voilà, j'ai présenté quelques principes et des questions autant que des affirmations. Hein. Voilà, oui, ça peut être intéressant en effet.
J'étais confronté à l'intervention de l'équipe soins palliatifs à la maison de santé à Alès il y a quelques années, lorsqu'un ami de mon âge décédé. Et j'étais quand même surpris de voir leur autorité. Il y a quand même, il me semble, en arrière-plan, une forme de conviction qui leur est propre. Et ils exercent une autorité, parce que le malade est presque volé, on peut dire, au sien. Moi, j'étais présent avec une volonté non seulement de calmer la douleur, mais d'anesthésier la conscience. Voilà. C'est-à-dire qu'il était censé dire, mais il faut mettre, augmenter les doses, il est encore trop conscient. Mais pourquoi? Il ne souffrait pas. Ce qui fait qu'il nous a été arraché. Et si on veut être soigné, c'est s'ils mettent devant une forme de chantage, on vous soigne, on vous calme, laissez-nous faire, et puis on n'a plus rien à dire, parce que sinon... Sinon, on intervient contre leur volonté, et dans ce cas-là, ils sont nuls.
C'est une question.
Ils menacent de ne pas le faire.
C'est une question très intéressante, hein, très, très importante. Moi, j'ai déjà parlé de ça avec un des responsables de l'équipe des soins palliatifs. Encore le cas de cette dame qui est décédée aujourd'hui a exposé une situation comparable. Pour eux, le maître mot, c'est le confort. Voilà. C'est mourir doucement dans le confort. Alors voilà, ils vont justifier leur attitude en disant « Pendant longtemps, à cause des chrétiens, on a pensé que la douleur était salvatrice et que si on souffrait, ben, on faisait un peu son salut, quoi. Hein, » Pour parler un peu rapidement. Voilà. Et donc c'était un peu sot aussi, cette idée-là, de laisser quelqu'un souffrir parce que finalement, comme ça, il expiait ses fautes. Voilà, on n'est pas d'accord avec ça. D'accord. Mais un peu pour contrebalancer cette attitude... Eh bien, aujourd'hui, on est alors dans un autre versant qui est le zéro souffrance. Voilà. Et zéro souffrance, alors le mot confort est dans leur bouche avec la morphine. Voilà, libéraliser l'utilisation de la morphine. Et du coup, effectivement, Alors avec, sur le document qu'ils nous ont donné là, il y a cette affirmation, la mort est un phénomène naturel. Ça aussi, ça se discute. Hein? La mort est un phénomène naturel. Enfin, moi, je n'ai pas de réponse absolue à cette affirmation, mais ça m'interpelle beaucoup. Parce que, voilà, la Bible, peut-être, devrait dire des choses qu'elle ne dit pas à ce sujet. En tout cas, on aimerait bien savoir ce qui se serait passé si le péché n'était pas intervenu. Mais en tout cas, nous savons que la mort est intervenue dans la création, quand même. Donc la mort, je ne sais pas si elle a été un jour naturelle, mais un jour, elle a cessé d'être naturelle. Bon, alors, si la mort est un phénomène naturel, qu'elle est inéluctable, l'objectif, le seul objectif, est de la rendre la plus douce possible, n'est-ce pas? Voilà, ne pas mourir étouffé. Alors, quand quelqu'un qui a un problème, qui a un cancer de la plèvre, dit « je ne voudrais pas mourir étouffé », et qu'il est angoissé à cause de ça, on est content qu'on puisse le soulager, franchement. Et quelqu'un qui souffre, il est quand même empêché aussi de s'exprimer et de se battre. Donc tant mieux si on peut soulager la souffrance, et chacun de vous a pris un jour un cachet d'aspirine. Bon, là, je crois qu'on est d'accord avec ça. Maintenant, faire de l'atténuation de la douleur un objectif premier, c'est aussi priver la personne d'une partie de sa conscience, exactement, et de la responsabilité... et de la responsabilité qui peut être mise en œuvre jusqu'aux derniers instants de la vie face à la mort. Et tous les pasteurs, et pas que les pasteurs, pourront dire que dans les derniers moments de la vie, il peut se passer des choses extrêmement importantes encore. Dieu frappe à la porte dans les derniers moments de la vie. Voilà. Alors là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu très important, effectivement, pour la personne et pour ses proches. C'est vrai. Est-ce que le confort peut devenir aujourd'hui un critère absolu? C'est une question qu'on peut poser aux soins palliatifs. Voilà. Donc on est
physique, d'accord, mais à partir du moment où tu vas plus loin, ça touche au seuil de la conscience.
Oui.
C'est donc du cœur, de l'âme, quoi.
Voilà.
Parce qu'on peut dire à la limite la mort est naturelle, mais quand la Bible parle de mort, elle parle comme de vie, vie et mort. Quand par exemple, il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il dit si tu pêches, tu mourras. Il ne s'agit pas là du mot physique, tout le monde mourra, qu'il ait péché ou pas péché, de toute façon. Donc tout le monde mourra, mais quand la Bible parle de mort, elle parle d'un autre aspect de la mort, de la vie aussi.
Bien sûr. Alors, ce mardi, je leur ai dit, dire que la mort fait partie de la vie, c'est un peu sot. Ils ont dit, c'est vrai, c'est un peu sot de dire ça. Et tout le monde le dit, hein. Oui, mais mourir, ça fait partie de la vie. Bon, on pourrait dire autre chose aussi, quoi, sur la mort, hein. C'est quand même assez grave pour ça, avec sa dimension d'interpellation très très forte de la part du Seigneur. Alors, ça sera dit.
Par rapport à cette prise de pouvoir, c'est vrai qu'il y a le fait que ce sont des gens qui se sont rentrés dans un créneau qui n'existait pas, c'est-à-dire le soin palliatif, le soulagement de la douleur et tout ça, c'était des choses qui étaient très méconnues, même dans la médecine en général, et du coup, ils sont avancés sur un terrain où le reste du corps médical n'a pas suivi, et complètement ignorant en fait. Et ça leur a donné une prérogative et un pouvoir énorme. Et
oui.
Sur
la puissance.
Oui, c'est parce que finalement, le médecin classique, il laisse faire parce qu'il ne sait pas, en fait. Et puis c'est vrai que c'est très difficile de doser un morphinique entre le soulagement de la douleur et l'état de conscience, surtout chez une personne déjà très affaiblie, ce qui va ne calmer que la douleur chez quelqu'un qui est en bonne forme physique, entre guillemets. Et quelqu'un qui est épuisé, ça va le mettre, la même dose va le mettre dans un coma, voire le faire mourir.
Et oui.
Donc on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Quand
on part
dans l'inconnu.
Mais on ne doit pas savoir et vouloir.
Ah voilà.
Et ça, oui.
Le problème, c'est la philosophie qui sous-tend tout ça. Et c'est vrai que pour eux, le confort, c'est aussi la conscience, de toute manière.
Oui.
Alors, là, peut-être la partie spirituelle, l'aumônier, etc., peut-être revendiquer de garder le champ de la conscience du patient encore intact et justement essayer de faire sa place là, à ce niveau-là.
Oui. Alors, ce qui est heureux, c'est que les soins palliatifs disent officiellement qu'ils sont contre l'euthanasie. Bon, ça, je trouve que c'est courageux. Le principe de respect de la vie, voilà, c'est-à-dire on est vivant jusqu'au bout. Voilà, ça, ils le disent, mais on pourrait reprendre cette formule, on est vivant jusqu'au bout, pour dire justement, vivant jusqu'au bout, ça veut dire qu'on n'est pas privé de sa capacité de parler ou de penser par des moyens qui vont certes calmer la douleur, mais nous faire plonger dans une sorte d'inconscience avant l'heure. Bon, je reconnais que c'est des questions quand même sur lesquelles il faut s'avancer avec beaucoup de délicatesse et pas se faire plus sage que ce qu'on doit être. Mais il y a des choses à dire sur ce plan-là. Ton intervention me donne l'occasion de mentionner quand même le docteur Paul Tournier, qui dans cette même période a écrit le fameux livre « Médecine de la personne » et donc la notion de responsabilité de l'individu est quand même soulignée avec beaucoup de force. Hein, voilà. Donc Paul Tournier, je crois que ça vaut la peine de le citer comme un précurseur dans la promotion de cette vision de la personne vue comme un tout dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes.
Celui qui pratique les soins palliatifs a des moyens énormes. Donc, pour calmer la douleur, pour aller jusqu'à l'extrême de l'inconscience. Et donc, ça, c'est des gens qui va utiliser ces moyens. Parce que les deux personnes peuvent utiliser de la même manière. Et il faudrait quand même savoir un petit peu qui on a affaire. La famille, au moins, ou le pasteur, ou le meunier, devrait avoir quand même un petit peu son mot à dire dans tout ça. Parce que sinon, on est livré à la conscience de quelqu'un et on ne connaît même pas son arrière-plan philosophique, spirituel, tout son vécu.
Bon, maintenant, il y a une nouvelle loi, là, depuis 2005. Est-ce que cette loi, elle est mise en pratique, où justement, on demande l'avis de la famille, on intègre de plus en plus la famille dans les décisions à prendre pour le suivi médical du patient, puisque justement, la famille se sentait dépossédée, le patient, mais elle se sentait dépossédée de son autorité, de cette communication avec le patient, et elle se sentait dépossédée aussi, au fond, de celui qui était membre de leur famille, parce que le corps médical en prend littéralement possession. Et là, cette dame là, qui a écrit ce livre, là, Mourir à l'hôpital, explique très bien qu'au fond, c'est quand même très difficile d'intégrer les équipes de soins médicaux. Elle parle pour les services de réanimation.
Tout à fait.
Elle a passé 8 mois dans les services de réanimation, mais elle dit qu'en fond, c'est un milieu très fermé, quoi, où on peut pas, et elle dit, on peut pas faire la lumière. On ne peut pas rentrer vraiment dans leur système. On sent que les paroles sont feutrées, ils utilisent un autre langage. Alors parfois, ils se lâchent, mais de suite, ils se reprennent parce qu'ils sentent qu'il y a un observateur. Donc elle l'a fait en sociologue, mais elle décrit très bien cette ambiance finalement où le patient sent que finalement, il n'a plus autorité sur sa propre vie, mais non seulement lui, mais aussi sa famille. Et finalement, il y a eu cette loi là en 2005 pour essayer de redonner, de relancer un peu ce dialogue entre la famille, l'équipe médicale, le patient, redonner un peu que l'équipe médicale n'ait pas tout ce pouvoir. Alors, est-ce que ça, c'est...
Oui, voilà. Il ne faut pas noircir le tableau et dénigrer le travail des soins palliatifs parce qu'ils font aussi un beau travail, je crois qu'il faut le dire, et le législateur aussi. Et notamment avec le principe du consentement éclairé. Ça veut dire que le médecin ne décide plus tout seul, normalement, il décide avec le patient, après s'être assuré que le patient a bien compris ce qui le concernait. Et même dans le cadre du plan cancer, il y a une infirmière spécialisée, affectée pour cela, une coordonnatrice qui est chargée de reprendre l'énoncé du diagnostic auprès du patient pour s'assurer que le patient a tout compris. Écouter les questions que le patient posera, ça c'est quand même vraiment très important, hein, parce que le médecin, il emploie son langage, puis il s'en va. L'infirmière revient et dit, voilà, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Cette infirmière est chargée de coordonner l'équipe pluridisciplinaire qui va accompagner le patient. Aumônerie, diététicienne, psychologue, assistante sociale, etc. Donc voilà, ça ce sont des choses quand même qui sont très précieuses et qui existent. Hein, qui se heurtent à des réticences, à des habitudes, à des médecins qui veulent tout diriger, peut-être, mais ce sont des choses qui sont réelles, quand même, qui sont sur le terrain. Voilà. Donc, on a devant nous des personnes qui sont... comment dirais-je? Moi, quand je circule dans l'hôpital, je suis habité d'un sentiment contradictoire. À la fois, l'impression qu'on me regarde en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait encore celui-là en 2008 à l'hôpital d'Alès voilà, pourquoi il y a encore des aumôniers dans un hôpital? Pourquoi il n'est pas dans sa chapelle ?» Bon. Et en même temps, j'entends, je perçois beaucoup de gens qui disent « Heureusement qu'il est encore là. Voilà. Heureusement que la dimension humaine, spirituelle, est encore prise en compte. » Et qu'il n'y a pas que des machines, des tubes et des médicaments. Voilà. Et même de la part des soignants, c'est perçu comme un soulagement. Voilà. À nous de nous intégrer en respectant la liberté qu'on nous donne. Et cette liberté, elle existe. Moi, je circule dans l'hôpital librement, en respectant des règles, évidemment. Hein. Pas de prosélytisme, pas d'évangélisation. Mais ça, voilà, on est d'accord avec ça. Hein. On ne va pas profiter des gens qui sont dans des lits pour leur dire « Maintenant, vous ne bougez plus, vous m'écoutez. Hein. » Évidemment. Évidemment. Mais la laïcité n'empêche pas l'interpellation. La laïcité est garante d'ouverture. Voilà. Ce n'est pas un autre débat, je crois, que celui qu'on aborde là. La laïcité, en France, est garante d'ouverture et non pas garante de fermeture et d'exclusion. Voilà. La laïcité est une garantie de la liberté de culte, c'est-à-dire que n'importe qui, croyant ou pas, qui veut parler de la foi, peut le faire. Avec l'aumônier de son choix. Ça veut dire un musulman, quand il faut rencontrer un pasteur, il doit pouvoir le faire. En tout cas, l'hôpital ne l'empêchera pas. Et même doit favoriser ce contact-là. Donc voilà, j'ai peut-être tout à l'heure mis en avant des difficultés, des risques. Ils sont réels. Il y a aussi un désir de bien faire qui est réel et qu'il faut voir, hein, je crois. Oui. À la demande, étant entendu que les demandes peuvent s'exprimer ou circuler de manière infinie. Hein, donc le patient peut demander, la famille du patient peut demander, le pasteur du patient, son voisin peut demander, les soignants peuvent transmettre une demande. Donc là, il y a une infinité de moyens par lesquels des demandes, y compris le hasard, avec tous les guillemets que l'on veut. Par exemple, je rentre dans une chambre pour visiter une dame protestante qu'on me signale. La dame protestante me dit « Écoutez, je ne suis pas bien intéressée pour parler avec un pasteur. » Et la voisine catholique dit « Mais moi, je suis intéressée. » Alors voilà, je vais passer 20 minutes avec la voisine. Et peut-être cette voisine, je vais lui apporter un calendrier 3 jours après. Et si elle reste 3 mois, je vais la visiter tous les 2 jours pendant 3 mois. Par exemple, vous voyez, donc... voilà, donc avec beaucoup de précautions, il y a aussi d'infinies occasions qui se présentent. Oui. Oui. Et les soignants sont, en général, heureux que nous soyons là, pour les patients et pour les familles des patients, qui quelquefois vivent des tourments ou des difficultés plus grandes que le patient lui-même. Quelquefois, le patient est concerné directement, c'est difficile pour lui, mais il reçoit une grâce particulière aussi, je pense. C'est le cancérologue de l'hôpital qui a dit « Quand on dit la vérité à un patient, il reçoit la force de l'entendre. » C'est le cancérologue de l'hôpital qui dit ça, ce qui correspond un peu à la promesse que l'apôtre Paul nous donne. Hein. Il y a une force qui est donnée à la mesure de l'épreuve, je crois, même chez le non-croyant en un sens. Encore que, évidemment, c'est différent que pour un croyant. Et donc, le patient reçoit un secours, en tout cas directement, que la famille, que les proches ne reçoivent pas toujours aussi facilement. Et quelquefois, le désarroi des proches est plus grand que le désarroi du patient. Et là, pour les soignants, c'est très précieux que nous soyons, avec une grande disponibilité, présents pour les patients et pour la famille des patients.
Dans l'expérience, ça se prouve. Est-ce qu'il y a possibilité de répondre à ces questionnements et à ces angoisses souvent liées à l'expérience, à une culpabilité du passé, parfois même très ancienne, des choses assez spéciales.
Alors, c'est difficile de faire une réponse globale à ta question. Il y a une infinité de situations, évidemment, qui existent, qui sont le reflet de la vie qui a été menée. Un des drames, c'est quand la personne est trompée sur l'échéance qui s'approche. Voilà. Quand un médecin dit « ça va aller très bien, vous allez sortir bientôt », alors que lui sait que la personne va mourir dans les 8 jours, la personne n'est pas aidée non plus. Hein, voilà. Donc ça, c'est un autre dialogue. Comment dire la vérité ? Est-ce qu'il faut dire la vérité et comment ? Donc là, il y a une infinité d'opinions et d'attitudes de la part des médecins. Soit qu'ils disent rien, soit qu'ils lâchent les choses brutalement et puis ils s'en vont. Enfin bon. Et puis d'autres qui peuvent le faire avec beaucoup de doigté et très bien. Et tout ça porte à conséquence. Hein, et chacun porte une responsabilité. Voilà. Les médecins, la famille, l'entourage. Est-ce que le patient veut entendre ou pas ? Souvent, il y a quand même une situation de quiproquo, hein, c'est-à-dire le patient sait mais ne le dit pas, la famille sait mais ne le dit pas, le médecin fait en sorte de se tirer d'affaire le mieux possible, et donc ça, ce sont des situations de déni, hein, pour reprendre un terme qu'on emploie en psychologie, c'est-à-dire de refus de regarder la réalité en face. Et tout ça, évidemment, est préjudiciable, et c'est le reflet de la vie d'aujourd'hui qui veut résoudre les problèmes en les niant, en ne les regardant pas en face. Voilà. Malgré tout cela, je pense que la personne qui va mourir, en général, elle sent qu'elle va mourir. Ça, c'est quand même très impressionnant. Hein, quand on voit que quelqu'un, par exemple, dit « je voudrais bien revoir mon fils qui est à Tahiti », le fils vient et la personne meurt le lendemain, on peut dire que la personne a géré sa fin de vie quand même. Et des situations comme ça, il y en a des quantités. Je pense autre chose qu'on observe qui est très, très impressionnant, souvent le patient aspire à être entouré dans ses derniers moments, et en même temps, souvent on observe que le patient souhaite être seul pour vivre ce dernier moment, tellement il est intime et profond. Comme j'ai observé cela, hein. Ça veut dire, par exemple, un conjoint reste pendant 8 jours avec son conjoint malade, il va prendre une tasse de café, quand il revient, son conjoint est décédé. Voilà. Et il leur dit, mais c'est pas possible, ça fait 8 jours que je n'ai pas quitté la chambre, je m'absente un quart d'heure, mais voilà. Ceux qui réfléchissent à ça disent, c'était voulu, parce que la personne qui voulait mourir seule, soit pour ne pas imposer cette situation à son conjoint, pour l'épargner. C'est un désir qui existe très souvent, soit pour vivre ce moment si intime et si important tout seul, sans être dérangé par quelqu'un d'autre, même par son conjoint. Donc cette conscience qu'une échéance inéluctable est proche, je crois qu'elle est quand même latente et réelle chez beaucoup, avec des effondrements d'espérance et de motivation qui vont quelquefois même précipiter la fin de vie. Quand quelqu'un cesse de lutter, dans un certain nombre de cas, alors l'expression de questions en rapport avec la culpabilité ou avec la foi ou avec l'espérance. Alors là, notre étiquette d'aumônier, en un sens, nous aide beaucoup, parce que dès qu'on dit l'aumônier... Alors, ce mot aumônier, vous savez, il est à la fois précieux et c'est un fardeau, parce que quand on dit aumônier, beaucoup de patients font un mouvement de recul, hein, en disant « mais quoi, je savais pas que j'étais si malade que ça ». Alors, voilà, et les soignants sont très embarrassés avec ce mot d'aumônier parce qu'ils disent souvent ça crée un mouvement de recul dans un premier temps, parce que les gens ne sont pas venus pour rencontrer un aumônier. On leur dit vous voulez rencontrer un aumônier, mais ils disent mais c'est grave donc ce que j'ai. Bon. Et en même temps, ce mot aumônier, aussi inconfortable soit-il, renvoie à la question de la foi et aide la personne à se situer si elle le souhaite. Rapidement sur le terrain de la conscience, de la responsabilité. Voilà. Donc là, quand on se présente comme aumônier ou comme visiteur d'aumônerie, si la personne le désire, elle sait qu'elle a la possibilité d'aborder sans délai une question qu'elle aurait du mal à aborder avec quelqu'un d'autre. Et après, alors, il y a le rayonnement personnel de chacun. Et si une personne est visitée par 5 visiteurs différents, elle choisit son interlocuteur. Ça, c'est très frappant aussi. Hein. Et elle va confier à celui-là plutôt qu'à celui-là ce qu'elle a sur le cœur. Et nous, notre objectif, c'est d'offrir à la personne la possibilité de dire ce qu'elle a sur le cœur et qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est ni la famille, ni les soignants. Voilà. Et alors là, des personnes peuvent dire, ben voilà, il y a 30 ans, j'ai trompé ma femme. Elle avait dit à personne. Ah, c'est fou, hein. Alors si on dit, ah, c'est pas grave, tout le monde le fait, c'est nul, quoi. Hein. Et ils ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors là, il faut trouver la parole juste, bien sûr. Et là, il y a des moments qui sont exceptionnellement poignants, bien sûr. Hein. Voilà. De détresse et d'espérance. Voilà, il y a beaucoup de détresse et aussi beaucoup de lumière au chevet des patients. Si je devais résumer comme cela, mon ministère, je dirais beaucoup de détresse et aussi beaucoup de lumière au chevet des personnes en fin de vie. Je crois que la grâce est exceptionnelle dans les moments exceptionnels. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, ceux qui sont chrétiens, là? Dans les moments exceptionnels, la grâce est exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais la grâce est vraiment à la mesure de la situation. Voilà, ça c'est quand même très beau, hein. Oui, et oui, c'est ça.
Vous arrivez à intervenir, oui. Et à saisir ce moment-là.
Oui.
Et est-ce qu'on pouvait agir? Est-ce,
oui,
que vous avez une vertu auprès des familles?
Alors, pas magique, pas automatique, mais quand même, pour des familles qui sont attentives, oui. Oui, effectivement, encourager une famille à, ben, à, comment dirais-je, à accepter que le moment est peut-être venu. Voilà, parce que effectivement, si le patient sent que l'entourage est très réticent à l'idée de la mort, il est privé d'une liberté de laisser la mort arriver à son temps, vous voyez. Et donc, il y a comme un feu vert, il y a comme une autorisation à mourir qui n'est pas un abandon, qui n'est pas un abandon, mais qui est comment on pourrait dire, une autorisation, voilà. Et cette autorisation à laisser la personne partir, ça peut être, par exemple, hier un garçon de 30 ans me dit, j'ai envie de dire à ma maman qu'elle a été une mère merveilleuse pour moi. Alors il me dit, mais je lui ai déjà dit, mais j'ai envie de lui redire, mais je ne sais pas si je dois lui redire. C'était poignant, hein. Et alors je lui ai dit, mais tu peux lui redire, hein, parce qu'elle entend certainement encore, hein, et qu'elle entende que son fils est heureux de sa maman, ben, ça c'est magnifique quand même, n'est-ce pas? Voilà. Et ça ne va pas hâter la mort, mais ça peut aider la personne à lâcher prise, hein, disons, hein, à cesser un combat, voilà, contre cette échéance-là. Voilà. Donc les soins palliatifs parlent du besoin de réconciliation. Vous voyez, donc avec leurs outils à eux, ils parlent du besoin de réconciliation. Ça veut dire qu'une personne qui meurt, parmi ses besoins, il y a le besoin de partir réconcilier. Voilà. Donc, est-ce que c'est de la psychologie ou de la spiritualité, cela? Bon, ben, on va dire que c'est les deux, peut-être. Hein, voilà. Parce que moi, je ne pense pas qu'il faille opposer la psychologie à la spiritualité. Ce sont deux dimensions qui coexistent, et l'une n'est pas l'autre. Et la Bible parle de l'âme, c'est-à-dire de la psyché, hein, de la dimension psychique de notre être, c'est pas rien. Comme le corps, c'est pas rien. Voilà. Que votre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, soient conservés irrépréhensibles. On est pris en compte entièrement par Dieu. Voilà. Alors, vous savez qu'entre le corps et l'âme, c'est difficile de placer la pointe d'un couteau, hein, et pourtant l'un n'est pas l'autre. Mais quand le corps va pas bien, l'âme est mal, et quand l'âme est mal, le corps va pas bien. Je peux vous en dire quelque chose, si vous voulez. Hein. Bon. Mais entre l'âme et l'esprit, c'est pareil. Hein. Un esprit réjoui, c'est la santé de l'âme et du corps. Un esprit abattu, c'est une âme chargée, c'est un corps qui souffre. Voilà. Il y a un médecin qui a écrit, hein, « Les maladies sont les cris secrets de l'âme ». C'est quand même beau, hein. Voilà. Donc, et la parole de Dieu est une épée qui peut séparer la jointure des os, l'âme et l'esprit. Et nous, on a du mal à le faire quelquefois. Et pourtant, on maintient que l'âme n'est pas l'esprit et l'esprit n'est pas l'âme. Et donc, la réconciliation peut se situer au niveau de l'intellect ou au niveau des sentiments. C'est le niveau psychique, c'est le niveau de l'âme, je dirais comme ça. Et aussi au niveau spirituel. Voilà. Et n'amputons pas l'homme d'une de ses parties. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à cœur de dire. Et pour moi, je dois dire aussi que Watchman Nee m'aide. Hein, je ne fais pas de Watchman Nee, on pourrait dire, le flambeau de ma pensée, n'est-ce pas? Mais je trouve que sa pensée un peu schématique sur le corps, l'âme et l'esprit, je trouve est utile. Hein, quand il dit le corps, c'est l'être tout à fait extérieur. L'âme, c'est l'être extérieur, c'est-à-dire qui gère ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui apparaît. Et l'esprit, c'est l'être intérieur, le plus profond, le cœur du cœur. Là, je trouve qu'il nous aide à accepter cette triple dimension de l'homme, sans mettre en oubli la partie la plus profonde, qui est quand même la plus importante. Donc on peut aider les familles, quelquefois, oui. Il y a aussi beaucoup de reconnaissance parmi les familles. Une très bonne question. Hein. Moi, j'ai envie de dire, ils sont à la fois très sensibles et blindés. Et peut-être ils sont blindés parce qu'ils sont très sensibles, d'ailleurs. Hein. Ils sont confrontés à des situations que la plupart des personnes ignorent. Comment faire? C'est comme un pompier. Hein. C'est comme un pompier qui ramasse des gens sur le bord des routes. Hein. Il reste sensible. Un pompier peut pleurer devant une fillette blessé au bord de la route, ça c'est sûr, hein, ça se voit, et en même temps il se blinde, sinon il meurt au bout de 8 jours, quoi. Alors là, on pourrait dire leur expérience professionnelle à la fois les sert et les dessert, très certainement, hein. Et il y a une situation toute particulière pour les professionnels de santé, et moi, si j'avais à donner mon témoignage, alors en réponse à ta question, ce serait de dire ils sont difficiles à toucher. Le médecin de médecine de la santé de l'hôpital, qui voit tous les personnels de l'hôpital, hein, je crois 1600 personnes, c'est énorme, hein, bon, pas que des soignants, mais il me dit ils sont durs entre eux, et ils sont durs avec eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit d'être malades, par exemple. Quand un soignant est malade, c'est comme si c'est comme un équipier qui lâche prise, quoi. Ils sont durs parce qu'ils sont soignants. Voilà, ils sont soignants, ils font partie des soignants, de ceux qui soignent. Donc on ne va pas confondre, tu vois. Et ils ont du mal à être soignés, alors qu'ils ont besoin d'être soignés. Mais je pense qu'ils ont une pudeur excessive sur leurs propres besoins, avec cette idée que s'ils reconnaissaient leurs propres besoins, ils perdraient leur carrure, hein, qui leur permet de soigner tout le temps, dans un rythme qui est quand même assez effréné. Hein. Donc c'est une vraie question. Et nous, en tant que, dans notre cahier des charges d'aumônier, on doit veiller tout spécialement aux patients, aux familles des patients et aux soignants. Et le plus difficile des trois, c'est les soignants. Donc, cette question est tout à fait justifiée, vraiment.
Ce qu'on ressent au contact des soignants, surtout quand ils sont au bord des situations dramatiques, c'est qu'ils ne laissent jamais transparaître leur ressenti personnel. Alors, soit par devoir, mais souvent aussi par l'idée du blindage. Moi, je crois qu'on peut, il faut être blindé parce que ça peut sentir sur toutes les situations parce que sinon on n'y arrive plus. Mais en même temps, on peut quand même de temps en temps exprimer sa propre douleur, son ressenti, alors que c'est toujours très lisse, c'est toujours très, très caché tout ça. Et on rebondit un petit peu dès qu'on veut aborder le côté un peu personnel du ressenti. Moi, c'est ce que je remarque parce qu'en médecine de ville, on travaille aussi avec des équipes de soins mobiles et c'est surtout ces gens-là qui sont le plus en contact avec la mort, avec les fins de vie.
Oui.
On sent que ça glisse un petit peu dès qu'on veut aborder la sensibilité.
Voilà. Surtout dans le champ professionnel. Donc, la difficulté.
La compassion n'est pas toujours une faiblesse.
Pardon ?
La compassion n'est pas toujours une faiblesse.
J'espère. Sinon, on est cuit. C'est vrai.
Parce que quelqu'un qui se blinde, une part, tout le monde, je me ferme. Je suis très sensible, mais il y a des tas de choses que je vais percevoir, parce que je me suis fermé. Pour ne pas souffrir, c'est une autoprotection. Et si on va vers l'autre, on va faire quoi?
Voilà, il reste une sensibilité de surface, de façade. C'est-à-dire une sensibilité compassionnelle, mais bien apprise, quoi. C'est appliqué. Mais ça n'a plus de la réalité, l'authenticité.
Oui. Si on fait ça avec les marginaux, avec les drogués, c'est une autre chose, une situation de souffrance aussi. Mais si vous faites ça, vous allez être jeté. Vous n'en êtes aucun.
Voilà. Et derrière tout ça, il y a la dimension de l'amour. Alors, de l'amour agapé, du vrai amour, de l'amour de Dieu. Voilà. Hein, parce que l'amour de Dieu a besoin de passer par le cœur. Et le cœur, il ne peut pas être blindé. Si le cœur est blindé, il n'y a pas beaucoup d'amour dedans. Hein. Et si l'amour est un ingrédient important du soin, ce que personne ne peut nier, quel que soit le mal... Voilà, le fait de se blinder ou de se durcir ou de se mettre en retrait est évidemment un obstacle à la communication de l'amour ou de la compassion. Ça, c'est très, très dommage. Mais le fait, peut-être que la compassion est autre chose que le fait de penser à soi-même. Moi, je pense qu'il y a des médecins ou des soignants qui sont encore capables de compassion, même s'ils ne le montrent pas tout de suite, ils vont peut-être quand même l'évoquer par ailleurs. Ça, je crois que c'est possible quand même, hein. Mais la capacité à penser à leur propre situation, à eux, ça je pense qu'ils se l'interdisent, pratiquement, surtout dans le champ professionnel. Donc si on les voyait chez eux ou dans un autre cadre, là ils pourraient dire, mais moi aussi j'ai une maman qui est malade, moi aussi j'ai un enfant qui est pas bien. Mais dans le champ professionnel, ils vont se l'interdire probablement, pas dans tous les cas, mais probablement, parce que, c'est le rapport entre la fonction et la personne aussi. La fonction, c'est bien que la fonction prime en un sens, parce que la fonction, ça veut dire le devoir, ça veut dire le service, ça veut dire le dévouement. Un pompier qui pleure et qui ne fait pas les soins qu'il doit faire, il a de la compassion, mais c'est inutile, il n'est pas dans sa fonction. Une maman qui pleure dès que son enfant tombe et qui perd tous ses moyens, elle n'est plus une maman. Elle est... Donc voilà, la fonction est très importante. Mais il faut que la personne reste pas trop loin derrière, quoi, voilà, hein, pour qu'il y ait une relation, une vraie relation humaine qui demeure. Et ça, il faut le rappeler aux soignants, parce que quand on est malade... Et moi, j'ai passé 2 jours à l'hôpital pour moi il n'y a pas si longtemps. Je peux vous dire, quand on est couché sur un lit ou sur un brancard, le moindre sourcil qui bouge, nous atteint au cœur. Voilà. Et nous aide ou nous enfonce. Et donc, l'attitude de cœur des soignants est très importante. Hein. Et ma fille Lydie, qui est infirmière, là, ne pourra pas dire le contraire. Elle le constate tout le temps aussi. Je veux dire, les sourires font autant de bien que les comprimés, quoi. Et ce n'est pas l'un contre l'autre, hein. Mais voilà, et si le sourire est vrai, il fait encore plus de bien qu'un sourire faux, évidemment. Tout ça, c'est très important. Mais la manière dont le patient se met lui-même en jeu en tant qu'être humain, ça, c'est une question qui reste très difficile. Et l'accompagnement des soignants est difficile, malheureusement.
Ce dont on parle beaucoup, en tout cas dans mon école d'infirmière, c'est de l'empathie.
De l'empathie. Voilà, ou la résilience, encore un mot à la mode, hein. La capacité de raisonner à ce que l'autre vit sans se mettre à sa place. Bon, y a des gens qui réfléchissent beaucoup et qui émettent des idées très belles qui ne sont pas toutes à mettre à la poubelle. Voilà, ça c'est sûr que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on comprend tout mieux et tout seul. Je crois qu'on peut le dire, hein. On peut apprendre de l'expérience professionnelle considérable. Et de la grâce que Dieu diffuse chez des gens qui ont voué leur vie à soigner les autres. Il n'empêche que la définition des besoins spirituels, n'importe quelle définition ne convient pas. Voilà, je trouve qu'il y a une définition qui est tellement réductrice sur la personne humaine que ça peut quand même faire un peu peur, malgré beaucoup de techniques et de savoir-faire.
On passe beaucoup de temps à des enseignements comme ça, même en formation continue, etc. Et puis, je veux dire, on a tellement pris le temps à se former qu'on n'a même plus le temps, dans le moment de soin, de s'en servir, et parce qu'on est débordé, etc. Enfin, y a des paradoxes comme ça. les gens vont en formation, mais ils sont tellement en formation qu'ils ont le temps donné à la formation n'est plus donné au travail. Donc après, ils n'ont plus le temps d'être empathique avec les patients. Est-ce qu'il faut y aller?
Voilà, c'est le risque du professionnalisme, hein, de tout professionnalisme, effectivement.
Ça reste assez théorique dans les faits.
Oui. Et puis alors.
On sait bien que ce soit évoqué, que ce soit dit.
On va dire. En France, il me semble tout particulièrement, la laïcité a créé une séparation très forte entre le public et le privé. Et à mon avis, c'est un autre écueil très grave. Ça veut dire qu'une personne dans le champ professionnel va avoir la carrure, la posture irréprochable, et dans sa vie privée, peut-être une attitude qui est tout à fait différente. Donc, professionnellement, c'est irréprochable, on n'a rien à dire. Mais spirituellement, hein, même dans la vision globale de la personne, comment on peut justifier que quelqu'un soit, par exemple, coléreux, léger, désinvolte ou vulgaire chez lui, et tout d'un coup, aux petits soins, avec un beau sourire dans le champ professionnel. C'est pas rigoureux. Et là, je trouve que la laïcité, en créant cette séparation entre le privé et le public ou le professionnel, crée, comment dirais-je, une séparation arbitraire qui est artificielle et qui n'est pas favorable pour la communication d'un rapport de vérité. Il n'y a pas que l'hypocrisie religieuse, mais bien sûr.
Oui. Qui est une autre religion, éventuellement.
En tant qu'aumônier, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un contact avec des déficients mentaux en fin de vie? Et si oui, comment ça peut se passer?
Alors, avec des déficients mentaux, oui, souvent. Je suis presque tous les jours au service de psychiatrie de l'hôpital, par exemple, pour des malades que j'accompagne depuis 4 ans. Donc ça, oui. En fin de vie, non. Je n'ai pas été confronté à... Alors, j'ai envie de dire non et oui. Quand un patient est suicidaire, je visite en ce moment une dame qui a tenté de mettre fin à ses jours il y a 8 jours. Donc elle n'est pas en fin de vie, c'est une jeune dame. Et pourtant... On l'a relevée dans le coma. La première fois que je l'ai vue, elle était en réanimation. Donc elle était comme en fin de vie. Donc voilà une personne qui n'est pas en fin de vie dans l'acception habituelle de ce terme-là, parce que ce n'est pas une personne âgée, elle n'est pas malade, mais elle a côtoyé la mort de très très près. Elle est presque... Elle est en train de se relever comme d'une mort. Alors, voilà, ça, c'est la situation de patient confronté avec des pulsions de mort, ça oui. Oui, ah oui, complètement. Alors là, comment dire ça? Associer la mort à l'idée de Dieu, mais oui. Alors, pas dans tous les cas, parce que la mort peut être aussi associée à des ténèbres redoutables. Mais la mort, je pense, reste et restera une interpellation forte qui renvoie à Dieu aussi. Et avec cette personne qui n'est pas chrétienne et qui n'est pas protestante, que j'ai vu 3 fois, je peux vous dire que j'ai l'impression que j'ai failli recueillir son témoignage de conversion avant-hier, quoi. Donc en quelques jours, cette personne a fait plus de chemin que beaucoup d'autres en 60 ans. Donc voilà, là aussi, le drame et la lumière qui se côtoient d'une manière stupéfiante. Oui.